Bonsoir Marie de Henzel.
Bonsoir.
Merci d'être venue ce soir à la rencontre du public bordelais dans cette salle Ozone chez Mola. Pour votre dernier ouvrage, Croire aux forces de l'esprit, publié chez Fayard. Mais avant de parler de cet ouvrage, on va rappeler un petit peu votre parcours littéraire et aussi psychologue, psychothérapeutique, psychanalytique, si vous voulez bien, parce que vous êtes aujourd'hui la spécialiste reconnue de la fin de vie et du bien vieillir et du bien aimer et du bien mourir. Mais en 1984, puisque c'est la date qui va nous servir de déclencheur ce soir, vous n'étiez pas encore dans ce contexte, hein, même si vous étiez déjà psychologue clinicienne, vous interveniez déjà depuis plusieurs années comme psychologue auprès de bureaux d'aide sociale, et à l'époque vous étiez déjà aussi psychothérapeute à l'hôpital psychiatrique de Villejuif, n'est-ce pas ?
Oui.
Voilà. Mais vous n'aviez pas encore publié à l'époque, puisque votre premier livre date de 1991,
oui,
sur l'accompagnement aux mourants. Et puis, aujourd'hui, on compte une vingtaine presque d'ouvrages. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup publié. 17 exactement.
Oui.
Bien. Presque 20. Et certains en collaboration avec d'autres auteurs comme Jean-Yves Leloup, comme Joanne de Montigny, comme votre fils également, et beaucoup, la plupart, seuls bien sûr. Et le livre qui vous a vraiment fait connaître, c'est La mort intime, et presque tous vos ouvrages d'ailleurs sont repris en pocket, donc très accessibles pour un très très vaste public. Et donc La mort intime a été préfacée par François Mitterrand. Ah tiens.
Oui.
Déjà. Donc, cette préface vous a été offerte par François Mitterrand en 1995, hein, c'est ça, pour la sortie du livre, en 1995. Et ce livre est donc aujourd'hui traduit en 22 langues, au moins.
Oui.
Voilà. Et est vendu en France à un très grand nombre d'exemplaires. Enfin, le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'est 700 000, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plus encore. Et donc, La mort intime a été vraiment une révélation pour beaucoup de lecteurs, comme un témoignage, justement, de l'accomplissement que peut représenter l'approche de la mort, et comme aussi une espèce de détabouisation, hein, du grand... du grand secret dans lequel aujourd'hui, malheureusement, on tient la mort et tout ce qui l'environne, pour le plus grand malheur d'ailleurs de tout le monde. Donc c'est ça que vous essayez de changer depuis longtemps, mais en 1984, encore une fois, ce n'était pas encore tout ça.
Non.
Et donc aujourd'hui sort, enfin aujourd'hui, il y a quelques mois, hein, Croire aux forces de l'esprit, dont le titre, bien entendu, nous rappelle les fameux vœux, les derniers vœux de François Mitterrand, du président Mitterrand, le 31 décembre 1995.
94,
pardon, oui, tout à fait. Avant la fin de son mandat, puisqu'il a terminé son mandat en mai 95 et qu'il est mort le 8 janvier 96. Et donc, dans ces vœux, il y avait cette formule qui est devenue historique, on peut le dire aujourd'hui.
Oui.
Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Alors aujourd'hui, bien sûr, on voit ce titre, on voit ce livre qui nous rappelle ce fameux 31 décembre 1994. Et on se demande, ce sera la première question, pourquoi avoir attendu aujourd'hui, fin 2016, c'est-à-dire le centenaire de la naissance de François Mitterrand, pour sortir ce livre qui est plein de révélations assez extraordinaires.
Oui, pourquoi avoir attendu ? Alors, je dois dire que je ne pensais pas écrire ce qui a été, la teneur de la relation très particulière que j'ai eue avec l'ancien président, et que c'est Sœur Emmanuelle qui, il y a 12, je ne sais plus exactement quand, mais il y a 12 ou 13 ans, lors d'un colloque où nous nous étions retrouvés en Italie, à Milan, m'avait pris à part et elle m'avait dit « Racontez-moi ce que vous avez vécu avec François Mitterrand ». Donc je lui avais parlé pendant une heure, ce que je n'avais jamais fait, parce que j'ai gardé cette histoire très secrète. D'ailleurs, mes enfants qui ont lu le manuscrit cet été ont découvert, je ne leur avais jamais parlé en détail de ce que j'avais vécu, ils savaient que je le voyais, mais c'est dire que personne ne savait. Et Sœur Emmanuelle, je lui avais raconté, et elle m'avait dit « Marie, vous avez connu l'homme intérieur, l'homme profond, l'homme mystique, l'homme vulnérable aussi. Et il faut absolument, promettez-moi que vous écrirez un livre, parce qu'il faut que l'histoire connaisse cet aspect-là de cet homme d'État. Et donc j'avais gardé ça dans ma tête, je m'étais dit oui, il faudra que je le fasse un jour, mais vous savez, il y avait beaucoup de livres qui sortaient, puis moi j'avais aussi besoin de prendre du recul, parce que j'ai quand même vécu une histoire extraordinaire, que j'avais besoin de prendre du recul, et quand j'ai vu arriver le centenaire, je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Donc je me suis décidée à écrire ce livre, et maintenant, je suis contente de l'avoir fait.
En tout cas, merci de nous l'avoir offert, parce qu'effectivement, on apprend énormément de choses sur François Mitterrand et sur vous également, bien sûr, parce que c'est un petit peu, comme je disais tout à l'heure, une sorte de préquel. Quoi. On apprend pourquoi vous avez finalement, après, fait tout ce parcours, connu tout ce parcours. Oui. Et vous le dites vous-même plusieurs fois, sans François Mitterrand. Vous le lui avez dit d'ailleurs lors de vos adieux le 19 décembre
1995. Oui, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui.
Voilà.
Je crois que je lui dois énormément. C'est lui qui m'a, on peut dire, qui m'a construite d'une certaine façon, parce qu'il m'a fait confiance. Quand je l'ai rencontré, j'avais 38 ans. Et quand une jeune femme de 38 ans rencontre un homme de sa stature qui vous fait confiance, qui vous parle de sa vie intérieure, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et j'ai eu vraiment un sentiment profond qu'il m'arrivait quelque chose d'extraordinaire, une sorte de destin, et que ça, c'était quelque chose qui... Voilà, il ne fallait pas que je passe à côté. Il m'a énormément apporté, parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier de ce qui a été l'engagement de ma vie. Comme vous le dites très bien, quand je l'ai rencontré, je ne travaillais pas du tout autour des questions de la fin de vie. C'est lui qui a créé mon poste de psychologue en soins palliatifs. Personne ne sait en France que c'est lui qui a créé les soins palliatifs.
Le premier centre en France et même en Europe, dites-vous.
Oui, et c'est lui. Donc il m'a mis le pied à l'étrier. Ensuite, il m'a encouragée parce que, à partir du moment où je suis rentrée dans ce service, il est venu visiter ce service 2 ans plus tard, tout à fait incognito. Et puis, régulièrement, quand il m'invitait à déjeuner, il me demandait ce que je vivais, qu'est-ce qui se passait. Donc, j'avais à la fois, je me sentais soutenue moi-même et accompagnée par ses questions, par son intérêt. Et puis en même temps, je sais très bien que ça l'aidait lui-même, puisqu'il se savait malade et non pas guéri, qu'il savait que la mort viendrait tôt ou tard, et que, en fait, nos échanges, je veux dire, je sais que ça l'aidait aussi. Et donc, et puis ensuite, je lui dois aussi la rencontre avec mon mari, parce que j'ai rencontré, dans un des voyages où il m'a emmenée aux États-Unis pour l'anniversaire de la Statue de la Liberté, je me suis retrouvée dans l'avion assise à côté d'un homme qui était son interprète d'anglais. Et nous sommes tombés amoureux au-dessus de l'Atlantique. Et donc, je lui dois aussi la rencontre avec mon mari. Je lui dois la préface de La mort intime. Finalement, beaucoup. Et c'est vrai que la dernière fois que je l'ai vu, je ne savais pas qu'en fait, nous disions au revoir, parce que c'était 3 semaines avant sa mort. Mais avec le recul, j'ai compris qu'en fait, nous nous sommes dit au revoir, parce que je l'ai remercié pour tout ce qu'il m'avait apporté. Je lui ai dit qu'il ne m'avait fait que du bien. Et il a eu une petite larme qui a coulé le long de sa joue. Et je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes... Et puis lui dire ça, je ne sais pas. C'est vrai qu'il ne m'a fait que du bien. Donc, ce livre, c'est aussi une gratitude. C'est aussi rendre hommage à ce que j'ai eu la chance de percevoir chez cet homme extrêmement complexe et qui, évidemment, a suscité aussi beaucoup de haine et beaucoup de... Je rencontre tout ça autour de moi. Je l'ai bien sûr entendu, mais... J'ai eu la chance de connaître un aspect très particulier et qui est justement l'aspect profond. Et je me suis dit, voilà, il faut que je rende hommage à cet aspect-là de l'homme que j'ai connu et qu'il m'a fait aussi la confiance de révéler. Voilà.
Oui. Vous mettiez d'ailleurs en exergue une phrase de Paul Celan, « Jadis, il y avait une hauteur ». Alors, vous parlez de profondeur. En latin, c'est le même mot qui veut dire hauteur et profondeur.
Oui.
Et du coup...
Il me l'avait... Et c'est vrai que ça a beaucoup... Enfin, dans l'actualité, je trouve que cette phrase a beaucoup de sens. « Jadis, il y avait une hauteur ». Il m'avait dit, d'ailleurs... On parlait peu politique, mais un jour, il m'avait dit « Un chef d'État a une telle responsabilité qu'il faut qu'il prenne de la hauteur et il ne peut pas avoir de hauteur sans avoir de profondeur. » Donc, c'était...
Ça, c'était un latiniste.
Oui, absolument.
Oui. Et donc, vous avez pris cette rencontre comme un cadeau, finalement, de la vie, même si le mot n'est pas là. Le mot « providence » n'est pas là non plus, mais enfin, on y pense. Quelque chose qui ne se refuse pas et qu'on doit laisser faire. Mais en même temps, on voit bien au fil du livre que c'est lui qui a l'initiative des rencontres, des rendez-vous, des appels. Voilà, vous pliez, dans la mesure de vos disponibilités, bien sûr, à ces invitations. Mais en même temps, vous savez aussi où il ne faut pas aller. Enfin, la rencontre est très... Très bien raconté parce que elle est inclassable cette rencontre. Non, on peut penser au départ, il vous emmène dans sa chambre, pas la première fois, mais quand même la deuxième ou la troisième fois, vous vous retrouvez dans sa chambre. Donc là, effectivement, il peut y avoir quelque chose, un gros malentendu.
Alors, c'est vrai que lui-même disait notre relation est inclassable. Je n'ai pas été sa psy. Jamais le contexte n'a été celui d'une relation professionnelle psy. J'ai été psychologue par ailleurs, mais je n'ai pas été sa psy, je n'ai pas été non plus sa maîtresse, même si dans la relation, il y avait une séduction évidente qui était... Mais en fait, je crois que dès le départ, on a, lui comme moi, nous avons bien compris que l'enjeu de notre relation n'était pas ni une liaison amoureuse, ni une relation professionnelle de psy, c'était une rencontre d'âme. C'est comme ça qu'on le qualifiait, c'est-à-dire que nous avions une complicité dans notre manière de sentir les choses de l'esprit, justement. Et je crois que si, par exemple, c'est vrai qu'au début, il s'est posé la question, et moi-même aussi, d'ailleurs, si j'avais, par exemple, une histoire amoureuse avec lui, ça n'aurait pas duré plus de 2 ans, c'est évident. Mais pour que ça ait duré jusqu'à sa mort, c'est que c'était à un autre niveau. Et finalement, c'était bien de rester. Et alors, j'étais dans un tiroir secret, c'est-à-dire que je n'ai rencontré personne, personne de son monde politique, personne de son monde, de son entourage. J'étais dans un tiroir secret dans lequel il me parlait de choses dont il ne parlait sans doute à personne d'autre aussi, qui étaient ses préoccupations intérieures. Et ce qui est amusant, c'est qu'après la sortie de mon livre, j'ai été contactée par d'anciens ministres qui ont demandé à me rencontrer, qui m'ont invité à déjeuner, et que je n'avais jamais rencontré. Dumas, Badinter, Kiegemann, Jean-Louis Bianco, qui était son secrétaire, ils ont tous voulu me rencontrer en me disant « Écoutez, on a lu votre livre et... on pressentait ce que vous racontez, mais là, nous apprenons des choses. » Et c'est amusant parce que, en fait, ils existaient dans l'entourage de François Mitterrand, mais je ne les avais jamais croisés. Et pareil, il ne m'a jamais parlé de sa vie privée. J'ai appris, comme les autres Français, l'existence de Mazarine, il ne m'en avait jamais parlé. Donc, c'est un peu étrange, hein, mais il ne me parlait que des choses qui concernaient ses interrogations. Encore une fois, sur l'esprit, les forces de l'esprit, l'âme, nous avons beaucoup parlé religion, spiritualité. Nous avons, il était d'une curiosité très très grande, et comme moi j'étais curieuse aussi. Voilà, je crois que ce qu'il aimait chez moi, c'est qu'il me disait « Vous êtes une chercheuse spirituelle. Racontez-moi ce que vous découvrez, parlez-m'en. » Et donc, c'est vrai que j'ai appris à connaître la spiritualité très, très originale
de François Mitterrand.
Et très profonde.
Oui.
Et insoupçonnée, puisqu'il la tenait, comme vous dites, dans un compartiment.
Oui.
Vous vous dites quelque part, comme moi, enfin, c'est vous qui parlez, comme moi, François Mitterrand avait des compartiments, une vie compartimentée. Et donc, d'un compartiment à l'autre, d'un tiroir à l'autre, rien ne pouvait filtrer.
Oui.
Mais néanmoins, la rencontre, elle passe. On dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Justement, vous parliez d'une rencontre d'âme. Et c'est par les yeux que la rencontre s'est produite, là, ce fameux 6 novembre, dans une cérémonie protocolaire. Vous croisez son regard et vous sentez. Hein, donc il y a quelque chose qui déclenche quand même ce lien, cette longue amitié, enfin même si on met entre guillemets amitié, il s'agit peut-être d'autre chose que de l'amitié, une rencontre qui se prolonge 12 ans, qui passe par les yeux et par laquelle vous sentez tout de suite, vous le dites, hein, vous savez. C'est frappant ce verbe employé plusieurs fois, je sais. Hein, à ce moment-là, je sais qu'il est seul, qu'il est en détresse et que nous nous reverrons. Et lui aussi, finalement, parce que vous décidez de lui écrire après avoir fait un rêve très étrange, très jungien. Donc vous lui écrivez, vous osez lui écrire.
Oui.
Ça, c'est quand même une audace, un courage. Et surtout, il vous répond très vite, quoi. Dans la semaine, il vous répond. Et il sait tout de suite de qui il s'agit. Lui aussi, ça l'a frappé, cet échange de regards.
Oui.
Et on peut penser, à travers la lettre que vous reproduisez d'ailleurs dès le début du livre, que ce qui lui a tout de suite plu, entre guillemets, plus que plu même, c'est votre sensibilité, puisque vous avez senti des choses par un seul regard, et aussi votre spiritualité, parce que vous lui dites que vous priez pour lui, pour alléger sa...
Le poids qu'il porte.
Le poids qu'il porte, voilà. Donc la réponse de François Mitterrand montre combien il a compris ces deux grandes qualités que vous aviez pour lui, finalement. Cette sensibilité et cette quête de spiritualité.
Oui.
Alors, on est au pays de Montaigne, et donc l'amitié, c'est un mystère. Hein, Montaigne disait parce que c'était lui, parce que c'était moi, parlant d'Étienne de la Boétie. Mais si on voulait aller un peu plus loin, à votre avis, quelles sont les qualités, autres que ces deux premières, hein, qui vous ont réunis, qui vous ont rapprochés aussi longtemps, puisque une relation qui dure 12 ans et qui est racontée à partir de votre journal, hein, sur ces 12 ans, de 84 à 95, fin 95, c'est tout à fait extraordinaire.
Qu'est-ce qui nous réunissait ? On avait des choses en commun qu'on a découvertes petit à petit. Par exemple, moi, je suis morvandelle. Et c'est une des premières choses qu'il a découvertes, parce qu'il voulait connaître mes origines, savoir d'où venait ma famille. Et quand je lui ai dit que mon père était enterré à Autun, là, tout d'un coup, il s'est animé parce qu'il m'a parlé du Mont-Beuvray, du Morvan, de Bibracte. Et c'était toute mon enfance. Donc, nous, effectivement, on s'est retrouvés sur cet amour du Morvan. Dans les premières rencontres. Et puis, j'avais une des premières... je crois que c'est la deuxième fois. Il m'a demandé ce que je lisais. Et il se trouve que je lisais le livre de Yankelevitch, La mort. Et il m'a tout de suite demandé, mais qu'est-ce qui vous intéresse dans ce livre ? Et donc, je lui ai parlé de ce livre. Et puis, c'est là qu'il m'a dit, et c'est la seule fois jusqu'en 92, qu'il m'a parlé à mi-mot de sa maladie, puisqu'il m'a dit, à l'heure où nous nous parlons... je devrais être mort. Il me dit, les médecins m'ont donné peu de temps à vivre. Et c'est la seule chose qu'il a dite. Et là, je lui ai répondu, mais qui peut vous dire le temps qui vous reste à vivre ? Le temps qui reste à vivre à quelqu'un dépend du désir de vivre, de ce que l'on a encore à faire sur Terre, et des forces intérieures, c'est-à-dire des forces aussi de l'esprit. Et là, j'ai senti dans son regard que j'avais dit exactement ce qu'il attendait d'entendre. Et c'est vrai qu'on lui avait donné, en 81, entre 3 mois et 3 ans à vivre, et moi, je le rencontre en novembre 84. Et je pense qu'il a perçu que j'étais quelqu'un qui allait le soutenir dans son désir de vivre. C'est pour ça que Je suis sûre qu'au début, c'est pour ça qu'il a voulu me rencontrer souvent, parce qu'il sentait que j'avais... oui, il y a des gens dont vous vous sentez très bien. Ils vous impulsent une énergie de vie. Ils vous soutiennent dans votre désir de vivre. Alors que peut-être que, justement, il était, c'est ce que j'avais perçu au début quand je l'avais rencontré. Il était blanc comme un linge, je me souviens. Il avait le visage blanc comme un linge et je l'ai senti très seul. Donc, et puis il a été beaucoup mieux ensuite. Il a, à tel point qu'en 88, quand il s'est posé la question de savoir s'il se représentait, donc c'était 4 ans plus tard. Il était persuadé d'être guéri. En fait, il avait une rémission. Il n'était pas guéri, bien sûr, mais il l'a cru. Tellement il se sentait mieux. Hein. Et c'est. Alors, il y a une anecdote amusante qu'on peut peut-être. Je vais vous raconter ça parce que c'est pas dans le livre. Sauf que dans le livre, je raconte qu'en 88, j'étais allée en Égypte avec mon mari. Que j'avais donc rencontré en 86 grâce à François Mitterrand, et nous avons fait l'ascension du mont Sinaï. Et j'ai envoyé à François Mitterrand une carte postale du mont Sinaï, et puis il m'a invité à mon retour, il m'a invité à déjeuner, il m'a remercié de cette carte, et il m'a dit: savez-vous que j'étais moi aussi, pas le même jour que moi évidemment, mais à la même période, j'étais moi aussi au mont Sinaï. Et il me dit, je me suis dit, si j'arrive à monter à pied tout en haut du mont Sinaï, je me représenterai.
Comme une révélation.
Alors, ce que j'ai envie de vous raconter, parce que c'est pas dans mon livre, Robert Badinter, après avoir lu mon livre, donc m'invite et nous parlons longuement, et il me dit: savez-vous que ce que vous racontez dans votre livre à propos du mont Sinaï, eh bien, je vous le confirme, j'étais avec lui. Donc nous avons commencé l'ascension du mont Sinaï d'abord à dos de chameau, avant l'aube, puis ensuite nous avons terminé à pied. Vous savez, on arrive en haut et on regarde le lever du soleil sur c'est magnifique, sur ce désert du Sinaï. Et il me dit: nous sommes arrivés en haut, nous étions seuls sur cette petite esplanade à côté de la chapelle. Et il me dit, il appelait François Mitterrand le chef. Il me dit: le chef s'est avancé et il m'a dit: Robert, est-ce que vous pouvez me laisser seul un instant? Donc Robert Badinter s'est reculé. François Mitterrand s'est avancé sur le bord de l'esplanade devant le désert du Sinaï. Et Robert Badinter me dit: il est resté là 10 minutes en silence. Et au bout de ces 10 minutes, il est venu vers moi, il m'a dit: descendons. Bon. Ils sont descendus en silence. Et Robert Badinter me dit: quand je suis arrivée en bas, Elisabeth, sa femme qui n'avait pas fait l'ascension, je dis à Elisabeth: tu sais, je crois que François Mitterrand a pris sa décision de se représenter, car je l'ai vu 10 minutes en colloque singulier avec Dieu. Alors vous voyez, il me confirme ce que m'avait raconté François Mitterrand lui-même, et je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Je crois qu'il hésitait, et puis je pense qu'il s'est dit: si j'arrive à monter à pied alors que je suis malade, c'est déjà un signe. Et puis il a dû être en colloque singulier, et puis prendre sa décision là.
Alors sur ces 12 ans, effectivement, il y a eu 3 époques, et vous divisez votre livre en 3 parties, avec justement le désir de vivre, le désir de vie dans la première partie, alors que lui se sait malade et qu'il n'en parle à personne, à part une allusion qu'il vous a faite à votre deuxième rencontre, quand il vous a dit, à l'heure où nous parlons, les médecins m'avaient dit que je devrais être mort déjà. Oui. Et puis la troisième partie, donc la rechute jusqu'à sa mort. Oui. Et donc, il disait déjà dans sa préface à La mort intime que votre livre avait une très forte densité humaine et en même temps une très grande simplicité. Et c'est vrai aussi de ce récit C'est vraiment écrit de manière très très simple, très directe, mais c'est d'autant plus puissant parce que on dit les choses, vous dites les choses sans les déguiser. Par exemple, qu'il aimait la bonne chère et vous aussi. Bon, ça intervient une ou deux fois dans le livre avec le détail de ce qu'il aimait manger et que vous aimiez aussi. Donc ça aussi, c'est un point commun peut-être dans la rencontre.
Oui.
Ça fait partie en tout cas du désir de vivre et de la joie de vivre. Vous avez parlé du point commun qui est la lecture, donc vous échangiez des lectures hein, et des conseils de lecture. C'est lui qui vous conseille, par exemple, de lire « Eti Ilsum ».
Oui, c'est lui qui m'a fait découvrir « Eti Ilsum », absolument. C'est un livre dont il m'avait dit que ça l'avait complètement bouleversé.
Parce qu'il ne le comprenait pas.
Oui, il m'avait dit « oui, c'est vrai ». Je ne sais pas si certains d'entre vous ici connaissent ce livre, Une vie bouleversée, de cette jeune femme juive qui vivait à Amsterdam et qui tient un journal et qui sait, là où elle a le pressentiment de son destin, elle sait qu'elle va terminer sa vie dans un camp d'extermination et elle aurait pu sans doute essayer d'échapper à ce destin, mais non, elle décide de le vivre et elle décide d'être une petite lumière dans le camp. Et c'est vrai que François Mitterrand était
éberlué
par ce récit. C'est vrai, se demandant comment est-ce que quelqu'un a pu accepter son destin comme ça et surtout se dire que quel que soit l'endroit où elle allait se retrouver et vivre, elle essaierait toujours de mettre de la lumière. Et ce journal, si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande de le lire. C'est un des plus beaux livres que j'ai lus dans ma vie. Une vie bouleversée.
Oui. Et il y a d'autres lectures extrêmement puissantes aussi que vous échangez.
Alors moi, je lui ai fait connaître un théologien suisse qui s'appelle Maurice Zindel, qui est peu connu malgré et qui est qui plaisait beaucoup à François Mitterrand. Tout ce que je lui ai dit lui plaisait beaucoup parce qu'en fait c'était un théologien très avec une grande liberté d'esprit. Il était très théilliardien et c'est quelqu'un qui avait des phrases par exemple qui touchaient François Mitterrand, parce que François Mitterrand, il faut le dire ça aussi, c'est la complexité de sa spiritualité, c'est que c'était quelqu'un qui disait qu'il était agnostique et il disait je ne sais pas si je crois, c'est ça être agnostique, mais je suis sûr que je sens, c'est-à-dire qu'avec sa tête il n'arrivait pas à croire, mais quelque chose en lui sentait qu'il y avait de l'infini dans l'homme, c'est pour ça qu'il se disait proche des mystiques aussi. Et donc, il avait une spiritualité complexe parce qu'il était très imprégné par le christianisme de sa famille. En même temps, il disait qu'il était un peu druide, c'est-à-dire qu'il sentait aussi, pour lui, il y avait une énergie cosmique, une énergie dans la terre, dans les arbres, dans les pierres. Et donc, il m'avait dit cette phrase, je suis un peu druide. Donc, vraiment une spiritualité complexe. Je crois qu'il se définissait comme quelqu'un qui avait une spiritualité, qui était spirituel, mais pas croyant au sens de religieux du terme. C'est-à-dire qu'il se méfiait des dogmes, il se méfiait de tout ce qui enferme. Et il avait cette phrase, il me disait « les religions divisent, la spiritualité rassemble ». Nous avons beaucoup, beaucoup parlé de cela.
Vous avez découvert aussi que vous fréquentiez tous les deux Thésée.
Ah oui, voilà.
C'est aussi l'église de la réconciliation.
C'est aussi un point commun que nous avions et nous n'y allions pas ensemble. Moi, j'y allais de mon côté. Thésée a été un lieu très important pour moi. Et j'ai découvert un jour, en parlant avec François Mitterrand, qu'il y allait lui aussi. Et alors, ça aussi, ça fait partie de sa complexité. C'est que le dimanche de Pentecôte, il montait à Solutré. Et il me disait, c'est ma rencontre avec les forces de l'esprit, c'était son pèlerinage païen. Et le lendemain, il allait à Thésée, qui est, vous savez, à côté de Solutré. Donc il se rendait le lundi de Pentecôte à la messe en fin de matinée à Thésée. Et ensuite, il déjeunait avec frère Roger. Et il m'avait raconté cette scène très drôle, qui est que quand il a été... Alors, parce qu'il faisait ça... avant d'être président. Il a commencé à faire ça quand il était plusieurs années avant. Et quand il a été président, il a voulu, il n'a pas dérogé à ce rituel. Donc il est allé à Solutré le dimanche, le lundi il est allé à Thésée, mais il s'est trompé d'heure. Je ne sais pas s'il y avait eu un changement d'horaire ou je ne sais pas, mais il est arrivé une heure trop tard. Et il m'a raconté qu'il était arrivé dans l'église de la Réconciliation à Thésée et qu'il y avait deux bénévoles qui étaient en train de balayer le sol. Et quand les bénévoles ont vu le président de la République arriver, ils ont lâché leur balai et ils ont couru en étant persuadés qu'ils avaient eu une hallucination. Et ils sont précipités chez frère Roger, qui leur a dit « Mais non, 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 c'est bien lui !» Parce que lui était habitué à ce que tous les lundis de Pentecôte, il vient. Donc c'était très drôle, cette scène. Voilà. Et il me disait, et ça montre aussi, vous voyez, il me disait « Je ne sais pas si je crois, avec ma tête, je n'arrive pas à croire, mais je suis sûre que je sens. » Et il me disait que quand il se mettait au fond de l'église à Thésée, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été à Thésée, mais... Moi, je fais partie des gens qui sont sensibles, qui sentent l'énergie des lieux. À Thésée, il y a une énergie extraordinaire. Et François Mitterrand me disait qu'il la percevait. Il se mettait au fond de l'église et me disait « Je suis comme vous, je perçois l'énergie de la prière dans ce lieu. Je le sens. » Donc ça, c'est quelque chose que nous avions en commun. Nous sentions l'énergie des lieux. C'est pour ça qu'il entrait aussi souvent dans les églises, même à Paris, toujours en dehors des liturgies et des messes, parce que c'était toujours quand il n'y avait personne, il venait incognito. Se recueillir incognito, parce qu'il sentait justement l'énergie du lieu. Au fond, oui, il sentait... C'est ça, sa complexité, c'est que... C'est pour ça qu'il disait que... Il se sentait proche des mystiques, parce que je crois que les mystiques, c'est ce qui les définit, c'est qu'ils sentent la présence de Dieu.
Et un contact
ils ne sont
direct.
Pas, ils, sont pas dans le, ils ne sont pas dans leur tête et leur foi n'est pas une foi intellectuelle, c'est une foi ressentie.
Il sentait une véritable correspondance entre vous. Oui. D'ailleurs, c'est dans la première lettre, il parle de correspondance au sens oui. plein du terme, au sens presque baudelairien, quoi. Vous oui. correspondiez par de multiples traits qu'il ne connaissait pas encore tous à l'époque, mais au fil des années et au fil du livre, on découvre combien il y avait de points communs dans votre manière de questionner l'inconnu, dans votre curiosité dont vous venez de parler, dans votre goût de la méditation aussi, certainement, parce que là, vous avez parlé des 10 minutes décisives sur le mont Sinaï, qui ne sont pas dans le livre, mais dans le livre, vous parlez aussi des 10 minutes qu'il a passées les mains contre votre pierre levée.
Oui, alors j'ai une petite maison dans le Gard qui a une particularité, c'est que j'ai une pierre celte. Les gens ne savent pas que les Celtes sont descendus jusque dans les Cévennes. Et donc, sur mon terrain, il y a une petite pierre celte qui ressemble aux pierres de Carnac. Et François Mitterrand est venu 2 fois chez moi parce que ça l'intéressait. Justement, il s'intéressait aux pierres. Et effectivement, nous avons passé 10 minutes... en silence, près de cette pierre, 2 ou 3 ans avant sa mort.
Alors, vous dites quelqu'un qui sentait. C'est vrai que c'est une surprise à certains égards, parce qu'on est habitué... Enfin, on a une figure historique, finalement, de François Mitterrand, un homme très froid, très calculateur, très stratège, très politique. Et alors, c'est très étonnant de voir qu'il a décidé de se représenter dans ces conditions-là. Enfin, c'est quand même très étonnant par rapport à cette figure qu'on a en tête. Ça ne correspond pas. C'est une autre facette qu'on découvre dans votre livre. Et c'est ça qui est très, très intéressant et qui fait la force de votre livre, c'est qu'on découvre un autre François Mitterrand. Celui qui est en quête, effectivement, mystique, hein, finalement, d'une forme d'éternité. Qui n'est pas seulement l'éternité historique, parce que l'immortalité historique, ça y est, il l'a. Mais je crois que c'était autre chose qu'il a cherché jusqu'au bout. Comment le corps est habité par une conscience et comment cette conscience persiste après la mort. Il était par exemple très intéressé quand vous l'aviez expliqué votre rencontre avec Louis-Vincent Thomas sur les NDE, les Near Death Experiences, les expériences de décorporation.
Oui.
Certaines personnes disent au seuil de la mort, dans le coma par exemple, elles sentent qu'elles sortent de leur corps. Et ça, de toute antiquité, ça a existé.
Toujours. Oui, c'est tout le problème de la conscience. Aujourd'hui, nous savons peu de choses sur la conscience. Hein. Je crois que tout le monde est d'accord, tous les scientifiques sont d'accord là-dessus. On ne sait pas vraiment quel est le siège de la conscience, ce que c'est. Donc, ils s'intéressaient évidemment beaucoup à ça. Nous avons beaucoup parlé justement de l'au-delà. Est-ce qu'il y a un au-delà? Est-ce que quelque chose subsiste après la mort du corps, la conscience, l'âme? Et alors, il y a une phrase de Maurice Zindel qui lui a beaucoup plu, parce que ce théologien catholique dit que, dans un texte qui s'appelle « L'expérience de la mort », il dit que nous avons tous une longueur d'onde caractéristique. C'est une expression qui a beaucoup plu à François Mitterrand. Hein ? Vous avez une longueur d'onde caractéristique, j'en ai une, il en avait une, peut-être que c'est ce qu'on appelle l'âme. Et en tout cas, ce qui lui plaisait, c'est qu'on parlait en termes justement de presque d'information, c'est presque un modèle informatique. Hein ? Nous avons une longueur d'onde et rien, Zindel dit, rien ne nous interdit de penser que cette longueur d'onde caractéristique peut aller informer une autre forme de corps. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que Zindel explique la résurrection. Il dit que quelque chose de nous subsiste et que nous ne savons pas, parce que nous n'avons pas les moyens de le comprendre. Mais rien ne nous interdit de penser que ça ne peut pas aller informer un autre corps. Et cette façon de penser, là, ça plaisait à François Mitterrand, ça. Donc, on parlait souvent de notre longueur d'onde caractéristique.
Et également, ce qu'on découvre en vous lisant, c'est cette corporéité, enfin cette manière sensible, finalement, d'être présent au monde, y compris comme homme politique. Il y a un passage que vous développez, page 97, quand il vous raconte ce qu'il a vécu lors d'un discours à Lille. Ce n'est pas ce que j'ai dit qui est important, c'est l'échange des énergies entre la foule et moi. Je la sens, cette énergie qui monte de la foule, je la sens qui me traverse et puis je la restitue. C'est une vraie circulation. Beaucoup d'orateurs parlent avec leur tête, moi je parle avec tout mon corps et je suis conscient de ce qui se passe. C'est quand même très étonnant de la part de François Mitterrand, et c'est une confidence qu'il vous fait. Oui. Jamais il n'a dit ça, jamais il n'a écrit ça à un journaliste, jamais il n'a révélé ça à un journaliste.
Oui, mais peut-être parce que justement nous parlions beaucoup de ça, nous sommes des êtres d'énergie aussi, et quand nous, mais là aussi vous m'écoutez, mais aussi je sens votre énergie, votre écoute, je la sens dans la pièce, quelque chose circule entre nous. Ça, c'est évident. Moi, qui ai beaucoup accompagné des personnes alors en fin de vie, j'ai beaucoup senti ce que c'était que cette circulation d'énergie qui est quelque chose qui, au fond, que l'on n'explique pas vraiment. Aujourd'hui, il y a un peu la physique quantique s'intéresse à ça, les neurosciences aussi, que nous sommes pas, que nous sommes ondes et particules. Je suis sûre qu'on découvrira des tas de choses dans les années qui viennent, mais voilà, c'est des choses qu'il percevait et il se sentait assez à l'aise avec ce discours-là.
C'est ça.
Mais encore, c'était secret. Vous avez raison, je ne pense pas qu'il disait ça à beaucoup de gens parce que ce sont des choses que les gens perçoivent mais qu'ils n'osent pas dire parce que ce n'est pas rationnel. Et au fond, nous sommes dans un monde tellement rationnel. Et je suis sûre que c'est une des raisons pour lesquelles ces conversations c'était dans un tiroir secret, parce que il était entouré de gens très rationnels. Et je pense que s'il avait dit des choses comme ça, ça n'aurait pas collé avec son image. Donc,
et en même temps, c'est fondamental. On a l'impression d'une grande authenticité.
Oui.
Dans cet aspect de François Mitterrand, et aussi d'un besoin. On voit bien là qu'il se nourrissait de cette énergie, qu'il en avait besoin. Oui. Et c'est aussi peut-être pourquoi il avait besoin de vous. Parce que cette curiosité pour la spiritualité qui vous liait, est-ce que vous pensez qu'il l'avait, comme vous, par nature, en somme, ou bien parce qu'il était malade ?
Non,
c'est quand même une grande question.
Non, je pense qu'il l'avait par nature. Je pense que le fait d'être malade a accentué ça. Mais je pense que non. Je pense que tout ce que j'ai découvert, c'était déjà là. C'était déjà là dans le petit garçon qu'il me décrivait comme assez solitaire, ayant un imaginaire débordant, aimant la solitude, aimant le silence.
Et la lecture aussi à la folie.
La lecture, mais aussi se promener le long de la Charente. Oui, je crois que tout était là, bien sûr. Et aimant aller prier avec sa grand-mère à Aubeterre, qui est une église monolithe dans Dordogne, il me racontait ça, que sa grand-mère l'emmenait et qu'il était impressionné, là aussi, par le lieu, parce qu'il se... Non, je crois que tout était là, mais que la maladie, évidemment, et comme beaucoup de gens que j'ai rencontrés, et qui, à partir du moment où on prend conscience que l'on peut... que sa vie est limitée et que l'on peut mourir sans savoir quand, mais on sait que c'est là, que c'est présent. Beaucoup de gens se posent alors beaucoup de questions à ce moment-là et développent peut-être leur spiritualité parce que justement, ça devient une urgence.
C'est ça. Alors, cette fameuse formule, les forces de l'esprit, page 84, on découvre qu'elle est de vous, en fait. Et ça aussi, c'est une grande révélation. Parce que il s'agit d'une conversation, justement, sur le corps, sur l'énergie, sur ce qui dépasse la matérialité du corps. Et il vous demande, mais quand vous parlez d'énergie, Marie, de quoi parlez-vous au juste ? De l'énergie cosmique, d'une énergie spirituelle ? C'est quoi l'énergie ? C'est compliqué hein, de nommer ce que vous et moi sentons. Cette onde qui nous traverse, cette présence que nous sentons dans les lieux où souffle l'esprit. Et vous lui répondez, vous avez raison, c'est presque impossible de nommer cela. En Chine, on parle du chi, en Inde, du prana. Chez nous, nous avons ce mot banal d'énergie. Personnellement, je parle des forces de l'esprit. Donc on s'aperçoit que c'est vous qui lui avez fourni finalement cette formule qu'il a tenu à reprendre dans ses derniers vœux, alors que finalement là aussi on lui déconseillait toute formule irrationnelle.
Oui, je sais que dans son cabinet, on a essayé de lui faire enlever cette phrase. On me l'a rapportée, on lui a dit non, vous ne pouvez pas dire ça, et il a dit je le dirai. Et il m'a appelé après pour me dire, vous voyez, je l'ai dit.
Oui, il avait raison parce que tout le monde s'en souvient.
Oui, mais c'était quelque chose, il voulait vraiment en témoigner. Et peut-être qu'il n'avait plus rien à perdre. Et effectivement, il n'avait plus rien à perdre.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, tous les deux très, très férus de lecture, de culture, de découverte culturelle dans toutes les civilisations. Vous avez eu des échanges très riches et du coup, le lecteur en profite. Et le livre est plein de lectures ou de renvois à des lectures qui sont tout à fait substantielles, bien sûr, puisqu'elles tournent autour de cette question de l'énergie immortelle, en somme, hein, de la conscience et d'autres sujets qui sont tout à fait universels. Et par exemple, vous lui faites découvrir le livre de l'épreuve de Fariduddin Attar, le poète iranien soufi du XIIIe siècle. Alors, il est très intéressé par cette lecture. Donc, c'est une épopée mystique où l'on dit que l'épreuve n'est pas une catastrophe qui vous tombe dessus, mais qu'elle porte en elle un secret. Selon Attar, nous désirons inconsciemment avoir accès à ce secret. L'épreuve nous l'apporterait comme un cadeau. Ce qui intéresse François Mitterrand, c'est la vision déculpabilisante de l'épreuve que propose le poète. Nous sommes loin de l'idée qu'elle viendrait punir ou sanctionner une faute morale, ou bien qu'elle serait la conséquence d'une blessure d'enfance. L'épreuve n'est pas davantage un simple manque de chance. Entre la version culpabilisante et la version nihiliste, le poète persan nous invite à réfléchir à un sens plus profond, la version spirituelle. Sur la voie de Dieu se trouve à l'infini de captivantes peines, écrit-il. « Je ne vois rien de captivant à une maladie », me souffle le président. « Moi non plus, mais ne croyez-vous pas qu'il est plus intéressant quand on est malade de se demander vers quoi cette maladie nous conduit, ce qu'elle peut nous faire découvrir de nous-mêmes, plutôt que de s'interroger sur le pourquoi, sur l'origine psychologique ou même génétique ? Vous avez raison, le pourquoi est stérile, conclut François Mitterrand. Je préfère me dire que je vais affronter et surmonter l'épreuve, et dans ce sens, en effet, cela nous conduit quelque part, cela nous grandit peut-être. J'ai tenu à lire ce long passage parce que je trouve qu'il représente bien le ton et la substance de vos entretiens et à quel point c'est enrichissant aussi pour le lecteur de découvrir ici un poète iranien, ailleurs Maître Eckhart et bien d'autres encore dont vous avez parlé tout au long de ces 12 ans. Alors, il y a quand même quelque chose qui vous sépare. Et apparemment, ça crée une certaine nostalgie chez François Mitterrand. C'est la place de l'amour. Il dit à deux reprises que quand il était enfant, dès son enfance, il voulait être soit pape, soit roi. Et que donc, toute sa vie, il a été dominé par l'ambition. Et il y a une autre conversation aussi où il parle de l'incompatibilité entre ambition et sainteté. Et que donc, vous avez placé l'amour au centre de tout. Et pas lui. Il dit aussi que l'amour pour lui ne peut être qu'une parenthèse, un répit, mais ce n'est pas ce qui conduit le sens de sa vie.
Oui, alors après, on a découvert les lettres d'amour.
Oui, qui récemment.
Et après, je pense que l'amour a tenu une place importante dans sa vie, mais ce n'est pas ce qui le menait. Il était mené par l'ambition. Parce que, comme vous dites, enfant, il disait « je voulais être pape ou roi ». Et il avait quelque chose qui le poussait vers le haut. Et il y a une scène aussi, il racontait que quand il était enfant, il montait au grenier, il ouvrait la porte, la fenêtre, et il se mettait à haranguer les oiseaux qui étaient dans les arbres, à leur faire des grands discours.
Mais des discours politiques, pas des discours à la Saint-François.
Des discours politiques aux oiseaux. Et il me disait, c'est là qu'est né mon talent d'orateur. Donc on voit bien que c'était en lui. Ça, c'était en lui, et que je pense que ça fait partie sans doute des déchirements de sa vie aussi, parce qu'il a été déchiré entre tant de choses contradictoires. Il aurait aimé écrire aussi, et puis finalement, il n'a pas eu le temps ou pas eu le. Il y a beaucoup de choses au fond qu'il aurait aimé mettre en avant, et puis finalement, quelque chose le poussait. Voilà, il était mu par cette. Cette ambition politique à laquelle finalement il a même donné toute la place.
Oui. Au-delà de cette différence, il y a vraiment beaucoup un parcours commun, même peut-être un compagnonnage, non pas un accompagnement, mais un compagnonnage, puisqu'il y a une réciprocité, même si vous formiez. Un couple ou un tandem, je ne sais pas comment dire, improbable et dissymétrique, bien entendu, puisque vous restiez dans la discrétion, vous restiez dans cette conditionnalité. Il pouvait mettre fin à votre relation quand il le voulait, on le sent bien dans le livre. Et en même temps, il y a une grande réciprocité. Vous vous apportiez mutuellement beaucoup et des choses essentiel, on le sent bien au fil du livre. Dès le début du livre, d'ailleurs, c'est tout à fait explicite. Je ne sais plus si c'est la première rencontre ou c'est le 21 novembre, donc 84, le premier entretien. Il veut savoir ce qui m'intéresse dans l'être humain. Voilà, d'emblée, la relation est ciblée, finalement, sur la profondeur de l'être humain, sur cette quête spirituelle. Et vous répondez justement sa dimension spirituelle. Donc tout de suite, les cadres sont tracés. Et vous lui répondez que votre expérience de psychanalyste vous a appris que l'être humain ne se réduit pas à ce que l'on voit ou à ce que l'on croit voir, car il est toujours en puissance de s'accomplir. Alors ça, c'est une formule très très belle, en puissance de s'accomplir jusqu'au bout. Et bien sûr, cette réponse lui plaît. Et il vous le dit. J'aime qu'on parle de spiritualité en termes d'interrogation ouverte. Je déteste les réponses radicales. La certitude dans ce domaine m'irrite. C'est comme si on me claquait une porte au nez. Donc là aussi, tout est dit très, très clairement, très fermement même.
D'ailleurs, il m'avait raconté, parce qu'on sait qu'il est allé voir deux fois Jean Guiton, avec qui il a parlé seulement. Et il me disait que ce qui l'agaçait, c'est que Jean Guiton essayait de le convertir. Donc, justement, il avait trop de réponses. Et ce qu'il aimait, c'est ça, c'est aborder les choses sous forme de questions, d'interrogations, d'approfondissements. Mais dès qu'il y avait une réponse, c'était... ça, pour lui, c'était une porte qui se fermait.
Merci beaucoup, Marie de Henzel.